Voici un nouveau podcast du livre « Rencontre avec les êtres de la nature » de Anne Givaudan. Ce livre qui va parler des sylphes, des ondines, des gnomes, des elfes et des devas. Était-il juste sorti de l'imaginaire des poètes? Sont-ils repartis aux oubliettes dans notre monde matérialiste, où le subtil n'a pas sa place? Notre monde a dû expérimenter la densification, mais nous sommes à l'heure de la remonter vers un monde plus lumineux. C'est pourquoi de plus en plus les êtres de nature, petits et grands, se manifestent et nous convient coopérer avec eux pour un monde meilleur, où tous les règnes œuvreront ensemble. Anne Givaudan, spécialiste des voyages dans les mondes subtils, nous entraîne dans un étonnant périple au cœur d'une réalité que nous ne faisons que redécouvrir aujourd'hui, celle des êtres de la nature, tout simplement. Les messages qui lui confient et qui touchent chacun de nous contribuent à un renouveau incontournable pour la planète et ceux qui l'habitent. Ce livre est illustré de nombreux dessins et de photos de ces êtres d'un monde de plus en plus tangible et visible à nos yeux. Rencontre avec les êtres de nature. La chose la plus belle dont nous puissions faire l'expérience est le mystère. Il est source de tout art et de toute science. Celui qui ne connaît plus d'émotions ne s'arrête plus pour s'étonner et vit emmitouflé dans ses peurs n'est bon que pour la mort. Einstein. Et il y a bien longtemps, si longtemps que notre mémoire a perdu la trace, les nombreux peuples de l'éther avaient des contacts avec les humains. Des pactes se signaient parfois avec le sang et le long des landes brumeuses des pays du Nord. Et il n'était pas rare de voir, lors de sanglants combats, des êtres aux formes étranges combattre auprès de féroces guerriers. Il n'y eut pas que des guerres et d'autres liens se nouèrent. Certains, parmi ces peuples de l'éther, avaient pour mission d'aider, de conseiller l'un ou l'autre des humains avec lesquels ils s'étaient liés pour diverses raisons. Aujourd'hui, notre mental, qui vit sur un mode accéléré, a créé un écran entre ce qui fut autrefois et ce que nous vivons. Il ne nous permet plus qu'à des rares occasions d'entreapercevoir une réalité bien plus souvent nous refusons de regarder. Il faut reconnaître que ce qui n'est pas tangible nous effraie. Nous ne savons pas comment contrôler ce qui est hors norme. Il suffit de voir comment nous éloignons de nos sociétés toute personne pouvant mettre en danger l'équilibre fragile et matérialiste sur lequel repose notre époque et surtout notre civilisation occidentale. Nous n'avons jamais consommé autant de médicaments pour nous calmer ou nous endormir qu'à ce jour. Nous avons simplement peur de sortir des normes. Les dictats de notre presse et de nos médias font que nous croyons que pour être heureux, nous devons dormir un certain nombre d'heures, manger d'une certaine façon et acheter une quantité incroyable d'objets parfaitement inutiles. Avec tout ça, nous avons perdu le contact avec nos propres rythmes, notre cœur et notre sensibilité. Nous nous sommes coupés ainsi de l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons oublié qu'il y a parmi nous des êtres dits invisibles qui œuvrent à chaque battement de leur cœur pour la planète et qui en organisent les différents éléments. Il y en a qui président à la pousse des plantes et de tout le règne végétal, d'autres qui sont en unité avec le royaume du minéral, d'autres encore appartiennent au monde de l'eau, tandis que certains d'entre eux aident le peuple animal et même les êtres humains. Les invisibles peuplent notre monde. Ils sont aussi nombreux que nous le sommes et tout aussi divers. Et si, jusqu'à présent, ils n'avaient cure d'être vus ou compris des humains, ils souhaitent aujourd'hui, en cette période de grande mutation, entrer en contact avec le peuple de la surface de la Terre. Ils souhaitent être connus, non par besoin de reconnaissance, mais pour que nous puissions collaborer en bonne intelligence avec eux et permettre à la planète et à ses habitants d'effectuer son passage dans les meilleures conditions. Il y a des multitudes de races dans les mondes non invisibles, dont chacune possède des spécificités adaptées à son savoir-faire. À notre époque, bientôt révolue elle aussi, nous ignorons, pour la plupart d'entre nous, que les petits êtres étaient connus de nos ancêtres. Qui sait encore que Paracelse avait un serviteur zélé qui habitait le pommeau de son épée dont il va sans dire qu'il ne se séparait jamais. Le révérend Robert Kirk, qui vécut de 1641 à 1692 et fut pasteur en Écosse, écrivit « La République mystérieuse des elfes, faunes, fées et autres semblables ». Ismaël Merindol, né en 1400 et qui a donné son nom à un village du sud de la France, avoue lui-même faire partie de cette race non humaine. Il raconte qu'après avoir été échangé à sa naissance, il fut élevé dans une famille humaine, mais garda des contacts fréquents et précis avec les races des invisibles. Il écrivit notamment en 1446 un livre contenant de fabuleux secrets, ainsi que des épisodes de sa vie. Il y avait tant à écrire qu'il ne put finir son ouvrage, dit-on, avant sa présumée disparition. Un exemplaire unique est encore conservé à la bibliothèque de Prague. Ce traité de Faëri a été réédité par Édouard Brazé, édition Le Préau-Clerc. Socrate avait son génie personnel qui le conseillait dans sa vie quotidienne. Il est d'ailleurs une anecdote qui rapporte qu'un jour, ce génie lui conseilla de se détourner d'une route qu'il allait prendre avec d'autres amis. Il fut le seul à écouter les conseils de son petit guide et grand bien lui en apprit. Sur la route à ne pas prendre, ses amis y croisèrent un troupeau de cochons et arrivèrent à destination couverts de boue. Ces personnages réputés pour leur connaissance et leur sérieux auraient-ils perdu tout bon sens en dévoilant publiquement leur rencontre avec le peuple des invisibles si celui-ci n'existait pas? Le temps passa. Puis il y eut l'Inquisition. Je n'évoque pas ici cette période désastreuse de chasse aux sorcières qui dura tout notre Moyen-Âge. Non, l'Inquisition a débuté bien avant cela. Prenons l'exemple de l'empereur Charlemagne. Grand conquérant, il agrandissait son royaume et dans le même temps avait le soutien de l'Église dont il se devait d'augmenter le nombre de fidèles en convertissant ses ennemis à la foi catholique. Fort de cet appui, partout où il passait à grand fort de tête coupée, il contribuait à des conversions rapides et de masse. Ça nous rappelle aujourd'hui la vaccination de masse. Le pape l'exhortait à remplir sa mission d'évangélisation s'il voulait asseoir son royaume et le transmettre à ses enfants. Il le croyait sans doute, il y trouvait son intérêt. C'est ainsi que lorsqu'il rencontra le peuple des Saxons, il ne chercha guère à comprendre leur culture. Il assista simplement à d'étranges cérémonies qu'il traduisit à sa façon. Ces païens prient devant un grand et bel arbre. Coupez cet arbre et convertissez-les, commanda-t-il à ses chefs de guerre. Puis vint l'époque de la chasse aux sorcières, où chaque femme et parfois homme qui conversait avec des êtres non humains et qui détenait le secret des plantes était irrémédiablement condamné et brûlé, après bien des tortures pour avouer son commerce avec le diable. Les religieux voyaient le diable partout où eux-mêmes n'étaient pas. L'Église, en rendant ses fidèles craintifs et soumis, leur refusait ainsi toute possibilité de rentrer en contact avec les êtres d'autres dimensions. Un livre que vous allez prendre plaisir à lire, comme tous les livres d'ailleurs. Si vous aimez la nature, si vous voulez comprendre la nature, si vous voulez regarder lors de vos balades la nature, lisez ce livre. Vous ne la regarderez plus comme avant. Merci de m'avoir écouté.